Bonsoir. Bon, on l'a dit et redit sous toutes ses formes, des formes un peu simplistes. Souvent, l'hôpital est malade, l'hôpital est en burn-out, l'hôpital s'asphyxie. Quel remède lui prescrire ? Alors, je ne sais pas si c'est un bon médecin, on va le voir. En tout cas, le Premier ministre, ce matin, depuis l'hôpital d'Aubonne, annonçait une concertation de 3 mois pour soigner l'ensemble du système de santé et notamment l'hôpital, avec la mise en place de chantiers dont certains sont déjà connus, quand même, avec plus de numérique, plus d'innovation, plus d'ambulatoires, revoir le système de tarification. Bon, est-ce que c'est vraiment la révolution ? Pas sûr. Alors, que faire, justement ? L'hôpital peut-il être sauvé, vraiment ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, comme tous les soirs, les meilleurs acteurs, les meilleurs experts, les meilleurs spécialistes. On est avec Frédéric Valtoux qui préside la Fédération hospitalière de France, la FHF, avec 1100 hôpitaux publics adhérents. Un médecin, Jean-David Zeitoun, il est médecin hépato-gastro-entérologue, cofondateur d'une société d'innovation, Inato. Il exerce en hôpital public, en hôpital privé. Emmanuel Lechypre, toujours en grande forme, éditorialiste économique à BFM Business. Frédéric Bizet, économiste de la santé, auteur de Protection sociale pour un nouveau modèle. Et puis on attend également le chirurgien Guy Valencien, membre de l'Académie nationale de médecine. Alors, c'est vrai que depuis quelques semaines, quelques mois, on voit s'accumuler toutes sortes de mouvements, de protestations, de cris de détresse surtout, lancés par le personnel débordé. Des patients aussi qui se sentent parfois délaissés. Je cite le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui disait « L'hôpital est au bord du burn-out ». Qu'est-ce qui se passe, Frédéric Valtoux ? Qu'est-ce qu'il faut changer à l'hôpital aujourd'hui en 2018 ?
D'abord, qu'est-ce qui se passe avant ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'hôpital paye de plein fouet, si on peut dire ça comme ça, des années d'économies sans que les réformes qui auraient rendu ces économies supportables aient été menées. Et donc, on sort d'un quinquennat qui a essoré l'hôpital. On sort d'un quinquennat où on a demandé à l'hôpital des économies en lui promettant des réformes sur le financement, sur le lien entre médecine de ville et médecine hospitalière, etc., qui n'ont pas été faites, et que du coup, aujourd'hui, on a simplement des organisations qui sont tendues, et derrière les organisations, c'est des personnels, et qu'on ne peut pas, à l'infini, sans en changer la voilure, demander à l'hôpital des économies pour les économies, parce qu'aujourd'hui, les personnels ne voient plus le bout du tunnel, et qu'il y a à la fois, on ajoute à la perte de sens, c'est cette perspective toujours de plus d'économies. Enfin, je rappelle juste qu'on termine l'année les hôpitaux avec 1,5 milliard d'économies
de déficit. Déficit, oui. Pour les seuls établissements publics.
Pour les établissements publics, les 1100 hôpitaux que vous citiez.
Les vôtres,
oui. 1,5 milliard, donc c'est surtout un déficit qui a triplé, c'est au-delà du montant lui-même, parce que 1,5 milliard, 70 milliards d'euros de budget, bon, ça va là, il n'y a pas... Bon, mais néanmoins, c'est un déficit qui a triplé en un an, c'est surtout ça qui est important. Et avec un gouvernement qui demande pour 2018 encore 1,6 milliard d'euros d'économie. Donc il y a un moment, on peut plus continuer comme ça à attendre...
Plus de visibilité budgétaire, voilà.
Qu'elle fasse toujours plus d'économies. Il y a des réformes de structure qui ont été posées dans 25, 50, 70 rapports ces dernières années. Maintenant, faut y aller. Faut y aller. Donc le Premier ministre, ce matin, se donne 3 mois pour poser des mesures
concrètes. On va y revenir, justement.
Et on attend ça avec impatience.
Ah, mais, vous exercez un hôpital, Jean-David Zeitoun, docteur Zeitoun, justement. De quoi souffre l'hôpital ? Qu'est-ce que vous voyez, vous, au quotidien ?
Alors moi, j'ai la chance probablement d'être dans des hôpitaux qui sont relativement... où j'ai pas observé de catastrophe dans les hôpitaux où je travaille. Après, on sait qu'il y a eu des suicides à la PHP. De tous les types de personnel, des médecins, des non-médecins et des administratifs. Le diagnostic, alors on va en reparler, mais de quoi souffle l'hôpital ? Je pense que ce qui a été dit ce matin par le gouvernement relève d'un diagnostic qui m'a l'air assez exact en termes des effets pervers de la tarification, en termes d'absence totale de digitalisation intelligente de l'hôpital. Donc tout ce qui a été dit ce matin, je pense, ce sont des vrais problèmes. C'est le traitement qui va être difficile.
Et l'hôpital, aujourd'hui, ça fonctionne comment ? Un hôpital, c'est devenu un lieu qui fonctionne à flux tendu ? Comment est-ce qu'on fait tourner les services avec
oui, c'est toujours à flux
moins
tendu.
De monde, peut-être, moins d'investissement ?
C'est ça le problème. C'est toujours à flux tendu, mais c'est normal. Pour ce qui est des maladies aiguës, l'hôpital reste un endroit qui est pertinent et qui, je pense, est plutôt bien adapté sous l'effet de la T2A. Les soins aigus...
Alors, il est la T2A, donc c'est la fameuse tarification à l'activité. Exactement. Dont on va reparler largement, justement, parce qu'il faut y revenir. Macron, le président de la République, l'avait proposé pendant la campagne. On y reviendra. Allez-y, docteur Zitoun.
Voilà, pour ce qui est des maladies chroniques, c'est plus compliqué, parce que l'hôpital reste une structure qui est lourde, qui est peu agile, et les maladies chroniques changent. En tout cas, les patients chroniques n'ont plus la même vie qu'avant dans pas mal de maladies. Et est-ce que l'hôpital tel qu'il est conçu aujourd'hui est la bonne structure pour ça? La réponse est plutôt non, et donc c'est tout le changement qui va être difficile.
Frédéric Bizard, on entend souvent parler d'un système productiviste à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il en est?
Qu'est-ce que ça on a essayé de rémunérer l'hôpital selon en effet la production réalisée, pas selon le budget de l'année précédente.
Bon.
De toute façon, deux secondes sur le mode de tarification, qui est quand même pas le phénomène central du problème de l'hôpital, mais deux secondes là-dessus. C'est un phénomène mondial. On est passé d'un budget global vers un budget à l'activité. Et on va, troisième étape, vers un budget à la performance. C'est-à-dire que plutôt que de financer l'hôpital par rapport à ses coûts de production, on va financer par rapport à la valeur délivrée. Bon, mais on en est tellement loin dans nos hôpitaux et même en médecine de ville dans l'évaluation de cette performance, que je crois que de promettre de passer au paiement à la performance est totalement illusoire. Enfin, c'est l'hôpital. Je rappelle qu'on a les dépenses hospitalières les plus élevées au monde après la Grèce. Je rappelle qu'on a un hôpital pour les 20 000. Mais parce qu'on a on avait un système hospitalo-centré avec des dépenses qui étaient historiquement élevées. Donc c'est tout sauf un problème de moyens. On dépense 92 milliards 2016, 92 milliards d'euros. C'est un point de PIB que la moyenne des autres pays de l'OCDE. Mais on a quand même une misère sociale très avancée. On a un hôpital qui reste à moderniser malgré deux plans d'investissement de près de 30 milliards d'euros, le plan hôpital 2007 et 2012. Donc il y a un moment où je crois qu'il faut faire un diagnostic lucide. D'abord, notre hôpital est en crise parce qu'il est totalement inadapté, ça a été dit par Dr Zeitoun, au monde des pathologies chroniques, aux nouvelles technologies. Il faut réorganiser l'hôpital en différenciant les activités. On peut pas avoir l'hôpital qui traite tout dans un même établissement, de la transplantation cardiaque à l'appendicite, alors que ce sont des modèles radicalement différents. D'un côté, vous avez une activité très standardisée, de l'autre, vous avez une activité de pointe sur les choses. Mais on conserve l'hôpital du 20e siècle et on fait croire qu'on va pouvoir le conserver. Donc, soit l'hôpital public va mourir de sa belle mort en le rafistolant et en faisant croire, parce que pour passer à l'alternance
le ou temps des rafistolages est révolu, disait le Premier ministre ce matin à Aubonne dans le Val-d'Oise.
Oui, mais le Premier ministre, il a été très stoïcien ce matin, c'est-à-dire surtout supporter mais s'abstenir. On soutient, mais surtout on s'abstient véritablement de parler de l'essentiel. Il faut désacraliser l'hôpital, il faut arriver, et là le discours politique, de mon point de vue, il est primordial. Il doit véritablement déclencher cette réforme-là avec un discours de vérité. Notre hôpital tel qu'il a été conçu, il est mort. Donc il faut déconstruire l'hôpital public. On est tous autour de cette table pour un hôpital public fort. Mais ça ne peut pas être le même qu'on a eu au XXe siècle.
Ouais. Emmanuel Lechypre, le regard de l'économiste que vous êtes sur l'hôpital de 2018 et tous les ratés qu'on accumule depuis des années, parce que tes émissions sur les hôpitaux, sur le système de santé... On en a fait combien depuis le coup d'envoi des décodeurs de l'écho il y a 5 ans et demi?
Non, mais je crois qu'effectivement, si on en est là, c'est une succession de... En gros, il y a deux catégories. Il y a eu les réformes qu'on peut considérer comme ratées ou qui ont tapé à côté de la plaque, et puis les réformes qui soit n'ont pas été faites ou qui ont manqué considérablement d'ambition. Si on regarde les réformes ratées, qu'est-ce qu'on peut mettre? On met les 35 heures, forcément, puisque le passage aux 35 heures aurait nécessité la création d'à peu près 45 000 emplois. Or, ça n'a pas été le cas, et donc on voit bien les dérives que ça entraîne sur le plan de la qualité des soins, sur le plan du stress des personnels, ce que ça entraîne comme surcoût pour lié à l'absentéisme des personnels, la nécessité de les remplacer. Autre réforme qu'on peut qualifier peut-être de pas pertinente, on l'a vu aujourd'hui, c'est la réforme de la tarification à l'activité. Il y a quand même beaucoup de réformes qui ont fait que renforcer la complexité administrative. Je crois que vous avez quand même une dizaine d'échelons à l'hôpital pour les personnels soignants, puis rajouter à ça tout ce qu'on nous a mis, haute autorité de santé, agence régionale, direction centrale, directeur, directoire, conseil d'administration, etc. Donc c'est quand même un millefeuille administratif considérable. Et puis les réformes trop timides, bah, c'est le refus de fermer des hôpitaux. Hein. Je vous rappelle que on a 1300 hôpitaux à peu près en France et 35 CHU. On a une moyenne de lits pour 1000 habitants qui est une des plus élevées. Et l'OCDE vous dit que même si on fermait encore plusieurs dizaines de milliers de lits, bah, on serait encore au-dessus des autres. Et puis l'incapacité de mener la digitalisation, etc. Donc on peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de réforme. Mais grosso modo, c'est quand même... Beaucoup ont mis la poussière sous le tapis.
Frédéric Vadou, cette complexité administrative, cette paperasse, c'est 35 heures.
Il y a d'abord un peu, la complainte de la vue misérabiliste un peu sur l'hôpital. Là, je suis quand même désolé, mais l'hôpital, c'est aussi quand même des premières mondiales. C'est de l'excellence, c'est des prix Nobel,
c'est
c'est aussi des Français qui n'ont pas de moyens, qui sont pris en charge. C'est aussi des gens qui, voilà, c'est quand même l'universalité d'un modèle qui est une référence mondiale. C'est quand même tout ça. Il y a un moment, faut sortir de, parce que c'est facile de flinguer l'hôpital. Je suis d'accord avec vous. C'est facile de flinguer l'hôpital.
Frédéric Valtou, flingue pas l'hôpital. Il y a juste un premier ministre qui se déplace ce matin dans un hôpital à Aubonne parce qu'il y a des mouvements qui peuvent dégénérer
en tout cas. Que l'hôpital soit pas, voilà. Je sais pas non plus.
Vous le reconnaissez, vous en dirigez peu de
lits. Oui, bien sûr. Et tout ne va pas, tout n'est pas rose à l'hôpital et tout ne va pas bien à l'hôpital. Mais enfin, faut quand même aussi avoir une vue pondérée des choses. C'est-à-dire que on a quand même un système de santé qui permet, en termes de performance sanitaire, si on regarde les grands critères de santé publique, de ne pas être non plus dans les derniers pays au monde sur l'espérance de vie, sur un tas
de sujets. Mais ça dure combien de temps encore ?
Non, mais ce que je veux dire, voilà, maintenant, c'est pas l'hôpital qui est malade. C'est pas l'hôpital qui est malade, c'est le système de santé qui est malade. C'est la médecine de ville qui est malade. C'est l'incapacité de beaucoup d'acteurs de ce système de santé de travailler aussi en coopération qui est malade. C'est aussi reconnaître que l'hôpital, dans les dysfonctionnements de l'hôpital, c'est qu'on en fait aussi la variable d'ajustement du système. Pourquoi il y a 20 millions de visites aux urgences en France ?
C'est parce que peut-être qu'on est moins bien ailleurs. Voilà, est-ce que
l'hôpital, c'est un grand centre d'urgence ? Est-ce que l'hôpital, c'est un centre de médecine générale ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème en amont de l'hôpital ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi en aval de l'hôpital ? Enfin voilà. Donc il y a un moment, c'est facile de taper sur l'hôpital parce que c'est effectivement c'est un mastodonte et qu'il suffit de rentrer dans un hôpital pour trouver quelques dysfonctionnements et qu'on peut pointer du doigt. Mais néanmoins, faut quand même pas oublier la réalité de ces institutions qui accueillent, je le redis, tous les Français, quelle que soit leur pathologie, et surtout la couleur de leur carte bancaire. Et ça, faut pas l'oublier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui fonctionnent encore comme ça. Après, sur la question des lits, des hôpitaux, enfin, je veux dire, on enferme, je vais pas dire tous les jours, ça serait exagéré. Enfin, ça bouge, la carte hospitalière, la carte des blocs chirurgicaux, alors, ça bouge peut-être pas assez vite, je suis d'accord avec vous. Il y a des réticences d'élus locaux.
Il faut continuer de regrouper les hôpitaux comme
la réalité, c'est que quand l'hôpital est le premier employeur d'une ville, comme c'est vraiment. Ça, c'est vraiment le symptôme.
Fermer un hôpital.
C'est vraiment le symptôme de la vie.
On peut fermer un bloc chirurgical, mais par contre réorienter les lits pour accueillir des personnes âgées et des maladies chroniques.
Est-ce qu'il faut, par exemple, Frédéric Valtou, comme le propose le gouvernement, parmi ces cinq chantiers,
il y a des endroits où il faut fermer l'hôpital, il n'y a plus personne.
Est-ce qu'il faut attendez, moi j'ai une question.
Attendez.
Est-ce que vous iriez vous faire opérer les yeux fermés dans n'importe quel hôpital en France ?
Bien sûr que non.
Ah ouais.
Mais bien sûr que non. Mais j'ai jamais dit qu'il fallait, par principe, ne laisser tous les blocs chirurgicaux. Il y a peut-être une centaine de blocs chirurgicaux à fermer en France. Vous êtes content ? Il y en a une centaine peut-être. Après, faut avoir un courage.
Il faut pas laisser opérer là. les regroupements d'hôpitaux qui vont être approfondis. Il faut continuer justement.
Mais bien sûr qu'il faut continuer. Enfin, je veux dire, c'est pas parce la carte hospitalière, elle est pas figée ad vitam aeternam.
Les urgences, puisque vous parlez des urgences, est-ce qu'il faut limiter l'accès aux urgences, par exemple, un paiement minimum par visite aux urgences, histoire non pas de dissuader. Mais c'est vrai que vous le reconnaissez vous-même. Il y a trop de monde qui passe aux urgences.
Mais c'est la faute de l'hôpital. C'est ce que les hospitaliers qui se mettent devant la porte et qui disent aux patients venez nous voir.
Les urgences permettent de faire fonctionner beaucoup d'hôpitaux qui ne fonctionneraient pas et dont la situation financière serait bien pire. Et d'ailleurs, les SAMU.
C'est pas un bon discours de dire ça.
Non, mais.
On a l'impression que les hospitaliers devant la porte de leur hôpital essayent de tirer le chaland comme un restaurateur grec qui essaie de faire entrer le client.
Question...
Enfin, je veux dire, c'est hallucinant d'entendre ça. Si les hospitaliers préféraient que la médecine de premier recours fasse son boulot. Et soit plus présente, mais c'est pas qu'elle fait pas son boulot. Les cabinets de ville sont débordés. Voilà, il y a un modèle de santé, mais c'est pas l'hôpital qui est à l'origine.
La question des dysfonctionnements
du système.
Je pense.
Il y a un système qui marche plus.
Sur le plan politique.
Frédéric Bizard, à vous.
Sur le plan politique, d'abord, c'est l'hôpital qui a construit notre système de santé sur le plan universitaire, sur le plan de la recherche. Ce sont les ordonnances de 58 qui ont structuré tout notre système de santé. Bon, donc l'hôpital a un côté sacralisé, un côté service public, accueil de tous, quels que soient ses revenus, quelles que soient ses origines et autres. Donc, c'est quand même la pierre angulaire la plus compliquée à réformer. Donc, je pense qu'il faut avoir un discours de vérité en disant soit l'hôpital tel qu'il est aujourd'hui gouverné d'abord. Vous savez, c'est comme un pays, un système économique. C'est-à-dire que s'il y a une mauvaise gouvernance, le système ne peut pas fonctionner. Moi, je considère qu'il y a une très mauvaise gouvernance de l'hôpital public qui est asphyxiée sous les normes et d'ailleurs qui est asphyxiée sous les strates administratives, comme ça a été dit avant moi. Il y a 9 strates administratives entre le praticien hospitalier et l'agence régionale de santé. Je ne parle même pas du central. Donc le praticien hospitalier, sans parler de l'aide-soignante, se considère totalement déconnecté de la réflexion, hein, qui est laissé à sa technostructure, et on a vu qu'on a mis près de 60 milliards d'euros pour avoir un hôpital aujourd'hui qui est, je suis désolé de le dire, mais en tout cas dans un état très négatif. Donc on voit bien que c'est pas c'est pas la bonne gouvernance. Il faut laisser une autonomie forte des hôpitaux, désadministrer massivement et responsabiliser les acteurs locaux.
Guy Valencien, qui est avec nous, qui est arrivé donc chirurgien, membre de l'Académie nationale de médecine. Comment un hôpital doit-il être aujourd'hui dirigé en 2018 justement? Quelle serait la bonne gouvernance d'un hôpital?
Je rejoins ce qui a été dit, je vous suivais sur mon smartphone dans les embouteillages. Je rejoins ce qui a été dit fatalement, bien évidemment. L'hôpital est administré, il n'est pas managé. Et c'est pas contre les directeurs font ce qu'ils peuvent, mais vu effectivement l'accumulation de normes, de directives, 250 directives par an, une par jour, qui arrivent sur le bureau des directeurs. Pourquoi? Et donc, s'ils veulent être bons, il faut déroger aux règles, il faut tricher. Vous ne pouvez pas favoriser les hauts potentiels, vous ne pouvez pas même pas les recruter, vous ne pouvez pas dégager ceux qui ne veulent pas bosser. Donc c'est infernal comme travail. En plus, on ne fait pas du tout appel à l'intelligence des personnels. Et j'avoue que Balance, ton hosto m'a intéressé. J'ai regardé des centaines de petits tweets. On voit tous ces dysfonctionnements, mais minables, ces petites choses qui hérissent les personnels qui sont là quand même à s'occuper de la souffrance, voire de la mort. C'est pas simple. Et sur un malade, on est des dizaines. Donc ça demande une sacrée organisation. Et ils sont là à se plaindre, les pauvres, mais de détails infimes qu'on pourrait régler tous les jours.
J'entendais sur une radio généraliste ce matin, Frédéric Valtoux, à l'hôpital de Longjumeau, dans l'Essonne, témoignage dans certaines chambres, enfin même pas chambres, parce qu'ils ont mis des patients dans des zones qui ne sont absolument pas conçues pour des chambres, donc il n'y a pas de sonnette. Donc qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné genre un couvercle ou une assiette avec une fourchette, et pour appeler l'infirmière, on fait gling gling sur le couvercle.
C'était un exemple complètement fou, mais je suis totalement d'accord avec Sylvain
Dixon
sur la suradministration. Ouais. C'est un exemple complètement fou, mais c'était quoi? C'était des gens qui racontaient, pendant l'épisode de grippe, il y a tellement de gens qui viennent à l'hôpital.
Juste.
Est-ce qu'il y a besoin pour les épisodes de grippe que tout le monde se dirige vers l'hôpital? Oh, sans doute que non. Sauf que vous savez plus où mettre les gens, et on a tellement coupé des lits qu'il y a un moment, on ne sait plus quoi faire. Donc les gens, on les renvoie pas chez eux.
Jean-David Zeitoun, médecin, vous exercez dans le public et dans le privé. C'est la même chose là, tout ce qu'on se dit dans les deux structures ou pas?
C'est-à-dire?
Est-ce que s'il y a du mieux dans le privé que dans le public, ou alors c'est la misère pareil?
Non, c'est d'abord, ils n'ont pas exactement la même orientation d'offre de soins. Les structures privées avec la T2A se sont plus rapidement, le public l'a fait aussi, hein, mais le privé s'est quand même concentré sur les activités qui étaient comptablement rentables selon les règles de la T2A. Ce que le public peut faire partiellement, ils ont par exemple augmenté certaines unités d'ophtalmo, mais ils sont quand même obligés de garder certaines activités dites non rentables selon le règlement de la T2A. Donc c'est pas exactement comparable.
Ouais, Frédéric Valtoux, vous allez nous quitter dans un instant, parce que vous avez d'autres activités politiques, notamment dans la mairie de Fontainebleau. Juste un mot, on y reviendra avec tous les autres, mais 5 grands chantiers à traiter en priorité par le Premier ministre. Alors, la réforme du financement des hôpitaux, on en a parlé. On a parlé de plus de numérique, plus d'ambulatoires, ouvrir la chasse aux actes inutiles, approfondir les regroupements d'hôpitaux. Franchement, Est-ce que c'est une révolution? Est-ce qu'on n'a pas déjà entendu ça mille fois, justement, quand on parle notamment du dossier médical partagé qu'il faut généraliser? Mais combien de gouvernements depuis Louis XII à peu près l'ont promis, ça?
Mais le Premier ministre a été très lucide hier. Ce matin, il a dit qu'effectivement, dans ce qu'il annonçait, il n'y avait rien de nouveau. Mais c'est différent entre des constats qui sont faits depuis des années et puis la volonté de faire. Alors je ne sais pas si la volonté de faire, il ira jusqu'au bout et jusqu'où il ira. Ça, il nous a donné rendez-vous à tous dans 3 mois, donc on verra. Simplement, c'est vrai que là-dessus, les constats, on les empile depuis des années et des années. On a passé un quinquennat de rapports. Je ne sais pas combien il y en a eu dans les 5 dernières années, mais on a eu un quinquennat de rapports. Et une lettre, une loi de santé publique qui est sans doute la loi la plus bavarde qu'on ait jamais eue. Qu'est-ce qu'elle a fait de positif quant à la réorganisation des soins? Les groupements hospitaliers territoires, c'est une chose. La seule réforme qu'il y a eu dans le quinquennat précédent, qui est porteur à long terme, parce qu'évidemment, c'est des mouvements, c'est comme la technologie des plaques, ça va lentement, peut-être trop lentement, mais ça va lentement, c'est les groupements hospitaliers territoires, les coopérations entre établissements. Mais sinon, on a passé un quinquennat pour rien, j'allais dire.
Oui, mais alors aujourd'hui, un nouveau quinquennat a démarré depuis un an. Oui, donc la mesure qu'il faut absolument concrétiser rapidement. Là, il s'est donné 3 mois, le Premier ministre, pour mener toutes sortes de concertations avec les praticiens.
Je pense que ce qui était important ce matin, je ne sais pas si ça sera perçu comme ça, je pense que ce qu'il a essayé ce matin de faire, c'est essayer de redonner du sens à un système qu'on a totalement perdu. Parce que je veux bien qu'on tape sur l'hôpital et qu'on dise que l'hôpital concentre tous les maux. Enfin, c'est l'heure du système qui ne savent plus à quoi ils servent, quel est leur rôle, quelle est leur place, quelle est leur fonction. Parce que c'est un système qui est crispé et qui est totalement dans lequel les patients rentrent et sortent n'importe comment.
Moi, j'ai une petite inquiétude. Est-ce que vous croyez vraiment que parce que alors toutes les réformes gigantesques qu'on n'a pas fait depuis 50 ans, on va toutes les faire en 3 mois. La réforme de l'État, l'apprentissage, la formation, l'hôpital. Tout ça à partir d'un programme d'Emmanuel Macron qui, sur la partie santé, était quand même légère, pour ne pas dire indigente. Donc, est-ce que vous croyez vraiment que, paf, comme ça, en 3 mois...
Ah non, mais moi, attendez, on peut y arriver. Je ne suis pas là pour porter la parole du gouvernement
d'Emmanuel Macron. Votre appréciation,
mais c'est plutôt élu de l'opposition. J'essaye simplement de... Parce que, je suis optimiste et j'essaie de croire que sur toutes les réformes qui sont évoquées, certaines vont aller au bout. En tout cas, il a mis le doigt... Les 5 chantiers, il aurait pu en citer 10, mais en tout cas, les 5 qu'il a cités sont pas des chantiers totalement marginaux, bien au contraire, ils sont même essentiels, c'est des points de blocage du système. Mais il a aussi renvoyé la balle à la médecine de ville, il a renvoyé la balle à l'hôpital, etc. C'est-à-dire, il a pas parlé que de l'hôpital. Il a parlé de l'ensemble du système de santé, parce que c'est ça qui est déconnant aujourd'hui.
Bon, on vous laisse partir, Frédéric Valletoux. Juste Merci. Une dernière remarque, Guy Valencien, et puis on se retrouve juste après. Oui,
sur le diagnostic, Frédéric Valletoux. Sur le diagnostic, effectivement, le Premier ministre a fait le bon, ça je suis convaincu. Moi, je suis beaucoup plus optimiste. C'est comme ce qui s'est passé quand Jack Welch, en 2000, a envoyé à ses 250 000 employés « Destroy your business ». Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 mois ?
General Electric.
Détruis ton job, montre-moi, et ensuite rebuild it, et reconstruis-le. C'est ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire que jusque dans les territoires, dans les ARS, alors en local, en régional,
les agences régionales,
les gens vont mouliner. C'est du En Marche bis. Ça a quand même marché, je suis désolé. Bon. C'est du En Marche bis qui est proposé. Alors ça va mettre 3 mois, il faut le faire court.
Mais quand vous dites En Marche bis, c'est quoi? Pardon, Guy Valencien, expliquez.
C'est-à-dire que les personnels, tout le monde va travailler en se disant, voilà mon boulot. L'infirmière a des choses à dire énormes, l'aide-soignante aussi, le cuistot pareil. Ne croyons pas que c'est uniquement les
médecins. Et ils seront entendus pour une fois?
Mais bien évidemment.
Il n'y a pas une fatigue de la réforme avortée?
Mais non, demandez aux gens, ils ne demandent qu'une chose. Regardez le parcours d'une infirmière par jour. C'est du délire total. Qu'elle vous dise, là, je ferais mieux d'avoir les pansements là par rapport à l'aiguille qui est là et ceci et mon petit poste où je vais noter et l'ordinateur. Qu'on les écoute et qu'on reconstruise de coin à coin. Ça veut pas dire du national, pas de normes. D'où les expérimentations qui sont ouvertes. On ne change pas, on ne fait pas une grande loi après des grands états généraux. On décide que peut-être qu'à Brest, ça sera pas comme à Strasbourg. À Lille ou à Marseille. Et ça, c'est quand même 9 en France.
Bon, allez, on continue dans un instant. L'hôpital peut-il être sauvé? On reviendra sur les pistes du gouvernement, justement. Oui, à quoi il doit ressembler cet hôpital en 2018, justement? Est-ce qu'on va voir naître un nouveau modèle? Vous restez avec les décodeurs de l'écho. À tout de suite sur BFM Business.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, le Premier ministre au chevet des hôpitaux, il était ce matin dans celui d'Aubonne, dans le Val-d'Oise, avec Madame Buzyn, la ministre de la Santé. Le chef du gouvernement qui se donne 3 mois pour infléchir intensément, je cite Édouard Philippe, à la transformation de l'ensemble du système de santé, mais sans rafistolage. Bon, il va consulter de mars à mai toutes sortes de professionnels au niveau local, au niveau national. Éternelle question d'ailleurs, tiens, dites-moi juste un mot, comment est-ce qu'on parle d'économie quand il s'agit de la santé ? Ça, c'est deux choses qui me paraissent parfois un petit peu antinomiques. Tiens, l'économiste Emmanuel Lechypre.
Je pense qu'il y a deux extrêmes dont il faut se garder. C'est-à-dire considérer que, par exemple, les dépenses de santé ne doivent absolument pas augmenter. Après tout, on est quand même sur un domaine dans lequel plus on va consacrer d'argent à sa santé, plus c'est quand même un progrès de la société. On voit bien qu'il y a des besoins qui vont être des besoins de plus en plus importants, tous les besoins liés à la dépendance, au vieillissement de la population, etc. Donc après, la question, c'est donc ça ne va pas être le juge de paix, comme le niveau de dépenses publiques ne doit pas être baissé de façon impérative, autoritaire, parce qu'il n'y a pas de lien entre un pays qui a un niveau de croissance faible ou fort et des dépenses publiques faibles ou fortes. Par contre, il y a une question de rapport qualité-prix qui doit être posée, et qu'effectivement la question, c'est pas tellement la limitation
c'est le service rendu, voilà.
Des dépenses, c'est qu'est-ce qu'on met en face de cet argent. Et c'est là, effectivement, qu'il y a des marges de progression, sans doute organisationnelles, etc., les gaspillages, tout ça.
Docteur Zeitoun, médecin hépato-gastro-entérologue, cofondateur d'Inato, on en parlera, puisque justement le gouvernement veut accélérer vers le numérique, vers le digital. Le gouvernement veut faire des économies dans les hôpitaux publics, des établissements qui fonctionnent à flux tendu, on l'a vu avec les RTT, justement, des temps de travail réduits. Sacré casse-tête.
Oui, c'est très difficile, parce que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que d'un côté, les gens à l'hôpital sont malheureux parce qu'ils ont l'impression qu'ils font leur travail dans des conditions mauvaises, etc. Et de l'autre côté, il y a une réalité économique qui est, il va falloir qu'on fasse des économies. Donc ils ont l'impression que ça va être encore pire, alors qu'ils ont l'impression d'être déjà au pire de ce qu'ils peuvent vivre. La réalité que a effleuré Frédéric Valletoux quand il était là, c'est que le parc hospitalier français, il est probablement un peu surdimensionné. Et donc, même si on procède à...
Un peu surdimensionné, ça veut dire quoi? Donc, il y a
c'est très difficile de savoir quel est le bon
public,
nombre d'hôpitaux par 100 000
privé.
Habitants. Ouais, bon. Il faut être dans la moyenne. On est au-dessus de la moyenne, il faudrait probablement être dans la moyenne.
Juste, Frédéric Bizarre, benchmark, le taux de la France versus le taux... Allez, de nos voisins, Espagne, Allemagne, etc.
Il faut se méfier des moyennes. L'OCDE, c'est 4,1 lits pour 1000 habitants. On est à 6, on est à un peu plus de 6. Donc, on a 95 000 lits supplémentaires, je dirais, par rapport à la moyenne de l'OCDE. Mais vous avez des pays qui sont l'Espagne, la Suède, l'Angleterre, qui sont à moins de 3 lits. Hein, mais donc, si on divisait par 2, on serait au même niveau. Mais c'est pas qu'un aspect de moyen. Tout à l'heure, il y a eu un débat intéressant sur est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste. Moi, je fais partie du camp des optimistes pour 3 raisons.
Comme Guy Valencien.
La première, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Guy Valencien, qui est très important, c'est qu'on a il n'y a de richesse que d'hommes, et on a la chance dans les systèmes de santé pour travailler avec des pays émergents, c'est d'avoir probablement les ressources humaines parmi les plus qualitatives au monde, de l'aide-soignante aux professeurs de médecine. C'est pas jeter une fleur sur la chose. Quand vous voyagez, vous le constatez, c'est la chose. Bon, ce qui est le plus difficile à avoir dans un pays. Hein. La deuxième chose, c'est qu'on arrive dans une phase de révolution technologique qui va impacter et qui va permettre de régler les problèmes de vieillissement, les problèmes de transition épidémiologique. Si on les applique correctement, c'est par l'innovation qu'on les réglera. Bon, on ne les a pas mis au cœur du système. Mais la troisième raison, à mon avis, d'être optimiste, c'est que ce gouvernement est en train de révolutionner notre modèle social, à mon avis, dans le bon sens. Il a démarré par le marché du travail, et il va ensuite aller vers les retraites, mais malheureusement, il oublie la santé. Dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il va, il fait basculer notre État-providence de quelque chose qui est basé sur des transferts financiers sans responsabiliser les acteurs vers un système qui va rendre l'acteur le plus autonome et le plus responsable de sa protection sociale, et d'autre part qui va intervenir avant le risque. On met 15 milliards d'euros sur la table pour améliorer les compétences des gens pour lutter contre le chômage, et c'est comme ça qu'on va réussir. Mais peut-être qu'on peut aussi investir sur le capital santé des individus avant qu'ils soient malades. Or, on sait que dans ce pays, on a n'investit pas sur le capital santé des individus. Donc je crois que si le gouvernement... On attend que ça soit trop tard. Mais notre système, il est conçu comme ça. On attend que les gens soient malades. C'est pour ça que l'hôpital aussi va...
Alors justement, il y a de ce casse-tête budgétaire, est-ce qu'on va voir naître un nouveau modèle, une révolution culturelle? Guy Valencien, chirurgien, membre de l'Académie nationale de médecine.
On va... Il y a une chose essentielle qui a été dite au début, c'est je crois Frédéric qui l'a cité, c'est
Frédéric Valtoux qui était avec nous, président de la Fédération hospitalière.
La pertinence, les deux choses qui doivent totalement tirer le système, c'est la pertinence et la qualité des actes. La pertinence, ça se demande à réunir les associations savantes et la haute autorité pour savoir si, quand on a un calcul dans la vésicule qu'on détecte par hasard, par échographie, il est gros comme ça, il ne demande rien à personne, faut-il l'opérer ou pas? Il y en a qui vont le faire, d'autres pas. Et c'est comme ça. On sait bien qu'on a des actes, ça a été dit, qui vont de 1 à 4 selon les départements. Donc on est dans une non-pertinence des actes. Et la qualité, il ne faut pas aller dans le détail. Vous sortez aujourd'hui...
Madame Buzyn, elle disait les actes inutiles représentent 30% des dépenses de l'assurance maladie.
Entre 20 et 30% dit l'OCDE à peu près.
C'est énorme. Mais personne ne sait.
Mais
c'est clair qu'il y en a beaucoup et il y en a trop.
Mais ça sort d'où ce chiffre de 30%
du l'OCDE? Je trouve que c'est... À mon avis...
Alors, un mot, Frédéric, Guy, continue. Docteur Guy Valencien,
pardon. Les prescriptions, on le voit. Faut-il avoir 12 médicaments à 90 ans? J'ai dit, on arrête. Donc, on sait bien. Il y a des chiffres. Pourquoi est-ce que pour le même type de malade, dans un département, on fait 4 fois plus de remplacements coronaires que dans un autre?
Et à votre avis?
L'explication, elle est souvent que plus il y a de médecins, plus il y a d'actes. Donc, chercher où ça va, c'est plutôt le Sud qui dépense que le Nord. La qualité, c'est assez facile, contrairement à ce qu'on croit. Vous prenez le taux de décès dans le séjour hospitalier. Combien de malades sont morts quand ils ont été opérés? Combien ont été transfusés? Et combien ont été réopérés pour une complication dans le séjour? Le PMSI, le programme d'informatisation, nous le donne, ça. Ce sont des indicateurs que personne ne peut discuter.
Ça sert à quoi, ces indicateurs?
Eh bien, vous regardez ceux qui ont beaucoup plus de morts que les autres, ceux qui font beaucoup plus saigner que les autres, ceux qui reprennent, qui réopèrent leurs malades.
Et quelle conclusion on en tire?
Eh bien, vous en tirez que certains devront probablement ou arrêter ou se reformer. Et ça amènera à reconcentrer les hôpitaux. Le Premier ministre l'a dit.
Pardon, Guy Valencien, parce que on le fait, ça?
Mais le Premier ministre l'a dit. Il a dit.
Qui est en charge de faire ça?
Il y a des endroits où les chirurgiens n'opèrent qu'une fois tous les 15 jours un malade.
Oui.
Ça voulait dire, il n'a pas dit on va fermer des services, mais fatalement. On va les remplacer par d'autres, par des soins de suite, par des EHPAD, par des maisons de santé. Ça ne veut pas dire qu'on vire les personnels. Tous les hôpitaux, et je les connais, qui ont perdu leur petite maternité ou leur service de chirurgie, ont retrouvé des marges de manœuvre, ont augmenté l'emploi avec d'autres spécificités.
C'est-à-dire où, la rééducation. Où sont passés les personnels?
Soit ils allaient vers le gros hôpital si c'était pas très loin, soit on les reformait à d'autres techniques qui sont très utiles. Donc, il y a vraiment de quoi faire.
Jean-David Zeitoun?
Oui, je suis d'accord avec ça. Effectivement, il faut qu'il y ait une réallocation. Mais ça se fera fatalement par des fermetures d'hôpitaux ou alors des transformations massives.
Comme le disait Emmanuel Le Chip, quand un hôpital, c'est le premier employeur de la ville, les élus locaux...
Politiquement, c'est difficile. Mais attendez, quand vous avez le président de la Fédération hospitalière de France qui vous dit qu'il y a des hôpitaux où moi, je ne me ferai pas opérer, c'est que le diagnostic, il est quand même extrêmement
unanime. Il a répondu à la question d'Emmanuel. Très bonne question, Manu.
Voilà, donc c'est qu'effectivement, il y a des hôpitaux qui, malheureusement, sont plus adaptés à la médecine d'aujourd'hui et qui doivent soit évoluer.
Ces hôpitaux, quand je vais demander dans quel hôpital donnez-nous la liste, ça fait rire, très bien, mais... On les connaît, ces hôpitaux.
Oui, bien sûr. Non, mais vous avez les classements de l'Express, les classements du Point, vous avez le CMSI, vous avez plein de façons.
Comment régler ça? Il y a des sujets, comment régler ça? Vous avez débat sur la qualité, il est quand même essentiel. Il y a un vrai débat qui est sur la gouvernance de la qualité. Aujourd'hui, en fait, les médecins sont gouvernés par l'éthique depuis des décennies. D'accord? On a considéré, comme il y avait peu de moyens pour soigner, on allait leur demander d'avoir une éthique exemplaire. On a mis des conseils de l'ordre derrière ça. Mais on n'a jamais pensé, finalement, à la gouvernance...
Heureusement, déjà.
On a mis...
Heureusement. Il y a l'éthique, d'accord.
Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on ne demande pas simplement...
Vous voulez pas la remettre en cause, c'est ça?
On ne demande pas simplement au médecin d'être éthique. On lui demande d'être efficient, ce qu'on appelle, d'être efficace tout en maîtrisant les coûts. Et il en a les moyens pour une partie des pathologies. Donc il y a inventer une gouvernance de la qualité, c'est pas si simple, parce que qui doit le faire? L'État, probablement pas. Les pairs, les médecins entre eux, probablement que oui. Comment? Il y a des sociétés savantes, il faut organiser ça, mais à mon avis, il y a urgence. Ensuite, il y a la transparence de cette qualité. C'est-à-dire qu'il faut la rendre disponible, cette qualité. Parce que là, vous allez régler tous les problèmes de non-qualité que vous avez dans beaucoup d'hôpitaux. C'est-à-dire que si vous avez une transparence de la qualité sur des indicateurs classiques qu'on connaît, qui permettent aux autorités, mais surtout aux patients, de pouvoir comparer la qualité de l'établissement. Par contre, il y a un débat que je trouve vraiment totalement fallacieux, et vraiment l'État est très mal placé pour ça, c'est le débat sur la pertinence des soins, qui est d'ailleurs assez agressif pour les, surtout quand on va dans les établissements où on dit il y a un problème de pertinence des soins. En gros, il va falloir commencer à vous travailler un petit peu bien. La première raison des surcoûts liés à la non-pertinence des soins, c'est que ce pays, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, a un système qui est totalement curativo-centré. On ne s'occupe pas des 55 millions de Français qui n'ont pas d'ALD. Mmh. D'accord? On attend qu'ils soient malades.
Infection de longue durée.
On sait, l'INCa nous dit depuis 10 ans qu'il y a 40% des décès évitables. Ben, peut-être qu'on peut essayer de les éviter, ceux-là. Bon, donc là-dessus, l'État a un rôle à jouer. Le deuxième, l'État, depuis 15 ans, a essayé de nous mettre un dossier médical partagé. Oui. Vous savez, c'est juste un portage numérique des informations. Bon, on y a mis 1,5 milliard.
Sans qu'il existe.
Ça, c'est la première raison de Gabji. C'est la première raison de Gabji.
Vous parlez de la qualité. Est-ce que la qualité doit rentrer quelque part maintenant dans la rémunération, dans ces nouveaux canaux de financement qu'aimerait voir émerger Emmanuel Macron? Lorsqu'il était candidat, il y a un an pile, hein, exactement, ce qu'il voulait, Emmanuel Macron, c'était plafonner à 50% la tarification à l'activité des hôpitaux, qui pousse, et je cite la ministre, hein, à une activité sans qualité. Quel nouveau canaux de financement faudrait-il inventer, Frédéric Bizard, vous l'économiste?
Alors, d'abord, il n'y a pas de système de financement parfait. Tous les systèmes de financement ont leur perversité. Avant la tarification de l'activité, on avait un budget global qui permettait de donner une certaine visibilité aux hôpitaux et qui avait probablement moins d'intensité, on va dire, concurrentielle et moins de stress pour le personnel. Sauf que, évidemment, ça récompensait plutôt les moins efficients. C'est-à-dire que ceux qui faisaient des efforts de maîtriser leurs dépenses et d'être plus efficients l'année N+, en fait, se retrouvaient avec moins de budget l'année N plus 1. Donc, forcément, c'était pas dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques qui s'accroissait, c'était pas bon. On est passé, comme l'ensemble des pays, à la tarification à l'activité. La tarification à l'activité, c'est d'essayer de tarifer en fonction de l'évolution des coûts de production.
Bon, on a vu que ça marchait pas.
Non, c'est pas que ça marche pas. Non. C'est que les conditions pour que ça marche, mais ça, c'est perversité aussi. Mais les conditions pour que ça marche, c'est que, en fait, on répartit ces activités dans les établissements qui sont les plus efficients. C'était l'objectif de ça. Mais comme, en fait, on a gardé nos établissements généralistes qui font tout, y compris ceux pourquoi ils sont pas faits pour faire, la tarification à l'activité met un stress énorme. Donc maintenant, on dit...
Alors, il faut innover.
Alors, ce qu'on va faire...
On fait quoi? Rémunération forfait? On fait quoi?
Les évolutions, mais il faut regarder ce qui se fait dans les autres pays, parce qu'on a un peu de retard. Ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on passe de l'évaluation par rapport au coût de production et une évaluation par rapport
à la valeur rendue.
La valeur, c'est quoi? C'est en fait le résultat sanitaire qui est mis en regard des coûts. Mais on en est tellement loin aujourd'hui, on ne sait pas évaluer la...
Du Valencien, comment on l'évalue? Comment est-ce qu'on note cette qualité? Comment est-ce qu'on la rétribue? Comment est-ce qu'on la rémunère?
On la rétribue par... Alors, je pense que l'idéal, en tout cas en chirurgie, et on pourrait l'appliquer ensuite probablement en médecine, c'est le forfait. Mmh. C'est-à-dire que vous prenez tous les actes qui sont réalisés pour un patient
dans une équipe. D'accord,
oui. Vous rajoutez au prix que ça coûte le prix des complications, si elles arrivent, car il y en a, divisé par leur fréquence, et vous faites ça sur 6 mois ou 1 an, avec les consultations et le suivi. Et s'il faut réopérer le malade, c'est gratuit. C'est gratuit. Hein. Le médecin et le chirurgien et l'hôpital se débrouillent. Ils ne touchent rien. Aujourd'hui, avec la T2A, vous touchez, plus vous cassez, plus vous réopérez, plus vous touchez d'argent.
C'est malsain.
Donc le forfait est quelque chose à la fois qui allie l'activité et la qualité.
Mais Guy, tu sais que là où c'est fait, c'est-à-dire aux États-Unis.
Nous, on le fait dans le service.
Il se trouve que je suis en train de faire une étude là-dessus. Ça se traduit, ils sont en train de l'arrêter parce que ça se traduit par un fardeau administratif qui est important. Alors nous, je t'en parle même pas.
Le
fardeau administratif.
On le fait
dans
le service.
Mais parce qu'il faut les données. Mais non. Il faut les données numérisées. Non mais
Frédéric. Les résultats nos assureurs, nous on le fait pour les patients étrangers, les assureurs.
Parce que vous êtes un service d'élite et beaucoup plus avancé.
C'est quel service?
La deuxième chose, ça incite, mais il y a des perversités. C'est que ça incite à la sélection des patients.
Non.
Puisque les...
C'était vrai, les Américains l'ont montré, à l'époque on n'avait pas l'informatisation. Aujourd'hui, vous savez, on va voir qui sélectionne les malades et on leur dira, attendez, d'accord, vous avez des bons résultats, mais vous n'avez que des malades qui ont 45 ans, sans comorbidité, donc on va vous réduire. Non, l'informatisation, c'est la transparence.
C'est le chemin vers lequel on va, mais attention à bien le mener.
Je suis d'accord.
On peut tout à fait rétribuer, prenons juste un exemple rapide, la chirurgie ambulatoire. On n'a jamais pensé que finalement ceux qui faisaient le plus de chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire faisaient baisser les coûts de production et améliorer la qualité, devaient être davantage rétribués, que ce soit dans le public et dans le... Voilà un exemple simple où on peut en effet rétribuer en fonction des pratiques vertueuses.
On a parlé de la réforme du financement des hôpitaux, de faire la chasse aux actes inutiles, de regroupement d'hôpitaux. Voilà, c'est le virage ambulatoire aussi, c'est-à-dire les soins sans hospitalisation. Il faut accélérer. Le virage numérique aussi. Tiens, docteur Zeytoun, alors médecin dans un hôpital public, dans des cliniques, et puis aussi à la tête de sa start-up, donc Inato, hein, avec toutes sortes d'innovations. Il faut compter sur la télémédecine pour améliorer le service à l'hôpital, désengorger les hôpitaux, surveiller les malades à distance, développer des maisons de technologie. Qu'est-ce que ça peut permettre justement pour soigner l'hôpital ?
Pour son fonctionnement interne et pour son interaction avec l'environnement, effectivement, le numérique paraît inéluctable. Donc, dans le fonctionnement interne, c'est catastrophique. Ça, on l'a pas encore dit, mais il y a encore des dossiers papier dans plein d'hôpitaux. On envoie encore des fax. On peut pas, voilà, ça doit vous parler, je pense. Donc, on envoie encore des fax. Il y a des gens qui sont payés juste pour emmener des dossiers d'un endroit à l'autre. Enfin, de ce point de vue-là, c'est assez préhistorique. Et dans l'interaction avec l'environnement, ça me paraît important dans les maladies chroniques. L'hôpital n'est plus la structure adaptée aux maladies chroniques. Mais il peut, s'il veut se réinventer et survivre à ça, devenir une espèce de plateforme d'expertise. Et le digital lui permettra de communiquer avec toutes les parties prenantes, comme on dit, les autres centres de soins plus légers.
Ça peut permettre de prévenir les hospitalisations inutiles.
Oui, c'est assez prouvé que ça marche globalement.
Alléger la fréquentation dans les hôpitaux.
Oui, c'est l'objectif. Et ça doit marcher, mais c'est difficile à faire. Martin Hirsch, qui est le président de la PHP, essaye de digitaliser la PHP. Alors symboliquement, il a commencé à travailler avec l'entreprise Doctolib que tout le monde connaît, et donc il fait exprès à la fois symboliquement, mais aussi parce qu'il pense que ça va alléger les contraintes d'agenda. Et il a un plan numérique qui est assez ambitieux. Et donc, quand on sait que la PHP, c'est le plus gros groupe hospitalier d'Europe, forcément, ça veut dire que c'est l'impression qu'ils ont sur la direction à suivre.
Oui, la question aussi qu'on se pose, Emmanuel Lechypre, je reviens vers vous. Simplement, c'est une problématique qu'on aborde régulièrement sur BFM Business. La définition du périmètre de l'État. Est-ce que l'hôpital n'est pas révélateur de cette problématique autour de la définition du périmètre de l'État ? À qui ? À quoi doit servir l'hôpital ? Est-ce qu'on n'utilise pas l'hôpital parfois, de façon abusive ?
Non, parce que là, on peut pas mettre la santé
à tort et à travers
sur le même plan que être actionnaire dans une entreprise publique qui fabrique des automobiles, qui fabrique des médicaments, qui fabrique des avions, etc. On n'est pas du tout sur le même type de problématique.
Tout le monde doit aller à l'hôpital ?
Ah bah non, après l'idée,
Guy Valencien,
c'est d'essayer de limiter, mais encore une fois, là pour le coup, on n'est plus sur le sujet purement hôpital, on est sur le sujet interaction hôpital et tout l'écosystème qu'il y a autour.
Mais ça fait partie du plan qui est prévu par le Premier ministre et la ministre de la Santé.
C'est pour ça que je vous pose la
question. C'est-à-dire sur les territoires de regrouper et de faire s'entendre quand même les privés et les publics, jusqu'à peut-être des modes de paiement des acteurs identiques. Pourquoi est-ce que quand je suis à l'hôpital vacataire, je suis payé au salaire, qu'ensuite je pars dans mon cabinet à l'acte, enfin, ça veut dire quoi ? Et dans une clinique, les chirurgiens opèrent avec les mêmes instruments, les mêmes casaques qu'à l'hôpital, et ils ne sont pas payés de la même façon. Donc on va aller vers probablement une tentative d'harmonisation des revenus.
L'hôpital peut être sauvé. Vous étiez posé ministre tout à l'heure, Guy Valencien, Jean-David Zeytoun.
Il faut absolument sauver l'hôpital. De toute façon, il n'est pas question de laisser mourir le système.
Emmanuel Lechypre, Frédéric Bizarre.
Non, absolument.
Il ne faut pas le sauver, il faut le reconstruire. On a absolument besoin d'un hôpital dans le système de santé du 21e siècle, mais ça sera un hôpital radicalement différent de celui qu'on a connu au 20e.
Et ça, on le veut, il y a la volonté pour ça ou pas ?
Je pense qu'il y a un manque de...
L'exécution va être terrible.
Pour le moment, on est dans une phase
L'exécution va être terrible. Et c'est quoi l'alternative ? C'est l'hôpital meurt ?
L'alternative, c'est de continuer à ce que ça coûte toujours plus cher et que les gens soient toujours plus
malheureux. Et qu'un jour l'hôpital meurt ou pas ?
Non, c'est impossible.
Mais il y a la volonté et le pragmatisme. Quand on regardait le discours ce matin, c'était pragmatique. Il n'y a pas eu, je répète, de grands plans. Voici les 5 points sur lesquels il va falloir bosser.
Pendant 3 mois, et on va consulter. Ouais, voilà. Merci Guy Valencien, chirurgien, membre de l'Académie nationale de médecine. Jean-David Zeytoun, médecin hépato-gastro-entérologue, cofondateur de Inato. Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. Frédéric Bizarre, auteur de Protection sociale pour un nouveau modèle. Et puis on était aussi dans une première partie d'émission avec Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France qui regroupe 1100 établissements publics. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.